Le Festival des Solidarités revient pour une 24e édition du 12 au 28 novembre. Il invite chacun à porter haut et fort sur son territoire la défense des droits humains et à réfléchir à un monde plus juste, plus solidaire et plus durable. Pendant 2 semaines, venez transformer le monde, assister à des concerts, des conférences, des projections, des ateliers, des animations proposées par des associations, collectivités, structures et citoyens de la région. Rendez-vous donc du 12 au 28 novembre en Hauts-de-France, un événement coordonné par Liane Coopération.
Bonjour à toutes et à tous, René Lavergne avec vous à l'antenne de Radio Campus 106.6 FM pour l'émission Quoi de Neuf, comme chaque mercredi entre 16h et 18h. Sommaire de cette émission, beaucoup de choses très intéressantes. Voilà, dans quelques instants, bien nous l'avons annoncé, le Festival des Solidarités Internationales de Lille, pour sa 18e édition en 2021, a pour thème le droit à l'éducation, et nous allons en parler dans quelques instants avec des personnes qui viennent du lycée Aimé Césaire de Fives à Lille. 16h30, eh bien, nous donnerons la parole à Amandine Lesage de la Rose et Vent pour nous parler du festival Next, donc qui démarre le 12, donc qui a démarré et qui va se dérouler jusqu'au 4 décembre. Elle va nous faire un petit point d'actu sur ce magnifique festival, Euro-festival, on peut dire. À 17h, ce sera Cité Philo, deuxième épisode aujourd'hui. Nous avons déjà accueilli des responsables de Cité Philo il y a 15 jours pour nous parler de la programmation. Là, on devrait accueillir Jacques Lemierre qui va nous parler de la programmation cinéma de ce festival de philosophie, donc qui a pour thème fiction cette année et qui est donc en route jusqu'au 13 décembre. Et la dernière partie de l'émission, la dernière demi-heure, donc de 17h30 à 18h, sera consacrée à une association autour de l'Afghanistan. Donc on va les retrouver à partir de 17h30 et ça aussi, ça nous raccroche au thème du Festival des Solidarités Internationales de Lille dont nous sommes partenaires cette année encore. Radio Campus 106 FM, Campus Hill. Et en DAB+, sur la métropole lilloise et sur l'Artois. Vous entendez actuellement un de mes invités de la semaine dernière. Il s'appelle Shabazz Mystic et c'est son tout nouveau titre qui s'appelle donc Ngo et que vous entendez là. Il était venu nous interpréter en direct quelques, on va dire, morceaux de musique, mais un peu chantés, enfin scandés. Et donc là, on le retrouve avec ce titre NGOW, Ngo, de Shabazz Mystic sur Radio Campus. Très belle musique et je remercie encore notre invité donc qui s'appelait Shabazz S-H-A-B-A-A-Z Mystic M-Y-S-T-I-K son nom d'artiste et qui nous avait interprété deux magnifiques passages musicaux, donc en direct sur notre antenne. Aujourd'hui, alors je ne sais pas si cette musique parle à notre invité, qui est professeur donc à ce lycée Aimé Césaire de Lille-Fives. Et donc, je vais lui demander, donc Monsieur Chabanne, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que ça vous évoque un univers que vous connaissez, cette musique que vous venez d'entendre?
Alors, je connais de nom l'artiste en question, Shabazz Mystique.
Bien.
Alors, l'univers, pas vraiment. Mm-hmm. Mais à travers la population scolaire du lycée et aussi Festival des Solidarités, c'est vrai qu'on est plongé aussi dans... on va dire, un bain multiculturel.
Bien sûr, oui. C'est vrai que la région de Lille est riche en culture beaucoup de gens viennent de plein de pays différents. Là, je reviens d'une exposition à l'université à Pont-de-Bois. Hein. C'est l'association Ulysse, le café à l'étage, qui propose une exposition actuellement avec un photographe autour de l'œuvre d'un photographe que j'ai accueilli aussi dans cette émission il y a un mois presque, sur le thème de l'Iran et notamment de la musique kurde soufie de l'Iran. Donc il présente une série de photographies autour du thème des enfants au travail en Iran. Donc il a aussi d'autres photos d'autres enfants qui travaillent dans d'autres pays, notamment Pakistan, etc. C'est vrai que ce sont des zones du monde où les enfants travaillent et où ils produisent des objets que nous achetons souvent allègrement. Voilà, en tout cas, le travail des enfants, c'est une façon aussi de vous rendre compte de ce que vous faites quand vous achetez des produits qui viennent de l'étranger. C'est peut-être le moment de vérifier un petit peu la provenance et surtout les conditions de production de tous ces objets qui envahissent les bazars.
Respirez vie. On laisse toujours des plumes quelque part. En vol de l'oiseau aussi beau qu'il soit, autant de sommets qu'il puisse atteindre, a toujours des plumes qui tombent. C'est la route, elle est faite ainsi. On aimerait chanter le soleil tous les jours. On est parfois poussé par des forces, ces pulsions étranges, qui engobent nos ombres dans des nuits de peur sans lendemain. Ces actes dont on prend conscience que plus tard, l'important c'est de se relever. Ce parcours initiatique qui m'a dit un jour que j'étais sur un lent fleuve tranquille. C'est une incarnation perpétuelle que l'on nomme la vie, mais qu'ai-je été hier soir? Zéla mana utaki Osika woye wo. C'est la mana où t'as qui est, aussi qu'avoyez-vous.
Voilà, Shabazz Mystique. Donc, sur Radio Campus, nous retrouvons Omar Chabanne, donc professeur et porteur d'un projet qui va nous présenter dans, tout de suite d'ailleurs, avec des intervenants qui viennent d'arriver. Merci à tous d'être présents. Donc, monsieur Chabanne, vous pouvez nous présenter un petit peu les personnes qui sont
donc,
ici.
Je suis Chabanne Omar, professeur de lettres histoire au lycée Aimé Césaire de Fives.
Oui.
Quartier ô combien multiculturel.
Oui, bien sûr.
Et en fait, je suis venu avec les cofondateurs du projet en question.
Alors, un projet qui a un nom?
Oui, bien sûr, qui s'appelle Art et lueur d'espoir.
Oui.
Qui est parti d'une initiative d'une dame qui est à mes côtés, là. Donc, Martine Pia.
Bonjour, madame Pia.
Bonjour.
Qui est présidente de l'association Avec et pour le Mali.
Tout à fait.
Et en parlant du Mali, donc Monsieur Lévis Togo, qui est metteur en scène, qui nous vient du Mali.
Très bien.
Et qui travaille avec mes élèves, une classe du lycée donc, à mettre en scène une pièce de théâtre écrite au Mali, qui traite des jeunes et de la politique.
Alors, vaste sujet. Alors, à partir de quel âge vous concevez que des jeunes puissent parler et peut-être déjà comprendre la politique, Monsieur Chabanne?
Moi, je pense que les jeunes peuvent parler de la politique dès leur plus jeune âge.
Oui.
Parce que les décisions qui sont prises en haut lieu les concernent tout de suite et les concerneront demain. Et je pense qu'il faut prendre compte de leur avis.
Alors, effectivement, c'est ce qu'on appelle la citoyenneté, l'éducation à la citoyenneté, j'imagine.
Exactement, oui. Voilà.
Et donc, ça s'apprend déjà au collège, forcément, au lycée, après.
Lycée, oui.
Et donc, il y a des cours pour ça ?
Ah, tout à fait, il y a éducation morale et civique.
Oui.
Alors, bon, l'appellation prête souvent à polémique. Éducation morale, qu'est-ce que la morale ?
Oui.
Donc, c'est pour ça qu'on a collé morale et civique.
Mm-hmm.
Parce que c'est pas une morale religieuse, c'est une morale citoyenne. Donc, quelque part, on essaie de former les citoyens à une vie en communauté. En gros.
D'accord. Est-ce qu'un projet comme le vôtre, c'est justement là pour souder alors, une communauté de destin, c'est-à-dire un lycée qui avance avec ses programmes et puis la réussite de ses élèves ?
Alors, un projet comme celui-là, c'est destiné à souder une communauté scolaire, mais à la souder aussi avec son environnement local, le quartier de Fives, avec aussi la ville de Lille, ce festival des solidarités internationales. Et puis, grâce à Martine, en fait, on a vu plus loin, c'est aussi solidarité internationale. Donc là, en l'occurrence, c'est essayer de former une solidarité par-delà les mers, en fait, donc avec le Mali, entre le quartier de Fives et Bamako, et la ville de Bandiagara. Donc, on essaie vraiment de former les citoyens, en fait, qui ne sont pas enfermés dans leur petit précaré national, mais vraiment de s'ouvrir. Moi, je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira.
Mm-hmm.
Parce qu'aujourd'hui, en fait, les problèmes sont mondiaux.
Ouais.
Et on voudrait que les solutions ne soient que nationales ou locales.
C'est
et
évident.
Ça, ce n'est pas possible.
Donc, il fut un temps où la région Nord-Pas-de-Calais, avant les Hauts-de-France, avait des partenariats avec justement la région de Kaï au Mali. Ça vous rappelle quelque chose, oui. Madame Pia ?
Oui, absolument. Même si, personnellement, notre association avec et pour le Mali n'est pas en relation avec la région de Kaï, mais je vais vous présenter brièvement l'association pour que vous puissiez bien cerner un peu notre rapport avec le Mali. Donc, je suis présidente de l'association avec et pour le Mali, qui est né en 2009 et qui a pour vocation une sensibilisation éducative, solidaire et culturelle en France et au Mali. Et cette association interagit. Donc notre association est basée à Orchi.
Oui.
Et Orchi, en 2014, a signé un protocole de coopération décentralisée avec la ville de Bandiagara, donc qui n'est pas effectivement dans la région de Kaï, mais qui est dans le centre du Mali et qui est une région actuellement en proie à l'insécurité et à des conflits quand même importants.
D'accord.
Donc,
peut-être vous pourriez nous présenter, pour qu'on ait une idée. Bon, le Mali, c'est grand, hein, évidemment.
Oui.
Quelles sont les zones du Mali qui sont les plus en difficulté, on va dire ?
Disons que le Mali est pratiquement en zone pour le ministère des Affaires étrangères. Le Mali est pratiquement en zone rouge complètement.
Mmh.
Et principalement, donc, les régions du Nord. Hein. Il faut savoir que le Mali est un pays qui est 2,5 fois plus grand que la France en superficie. Et toutes les régions Nord et également Centre sont vraiment là en zone rouge-rouge. Chaque jour, moi, je suis en relation pratiquement tous les jours avec des personnes dans le centre du Mali et à Bandiagara. Chaque jour, des villages sont attaqués, incendiés. La ville de Bandiagara compte 25 000 habitants et à l'heure actuelle, elle en comporte 45 000 puisqu'il y a 20 000 réfugiés.
Mmh.
Des réfugiés qui viennent de tous les villages environnants, qui quittent leur village parce que, voilà, en proie Et ce projet, ça va me faire peut-être, si vous voulez bien, le lien avec le projet que l'on mène avec le lycée Aimé Césaire et avec la participation de Lévis. C'est que ce projet est né, en fait, de textes qui ont été écrits par 12 jeunes poètes de la région donc, qu'on appelle le Pays d'Ogon. Bandiagara est donc le chef-lieu, si vous voulez, de cette région qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est très très belle, qui est vraiment une très très belle région. Et ces 12 poètes ont écrit des textes pour passer des messages, pour crier à la fois leur douleur, mais surtout pour aussi nous dire qu'il y avait des lueurs d'espoir et qu'ils souhaitaient vraiment la paix. Mmh. Donc ça nous a, si vous voulez, amené à penser que effectivement l'éducation à la citoyenneté dont vous parliez, dont Omar parlait, c'est que cette éducation à la citoyenneté, nous, au niveau de notre association, on la commence dès l'école maternelle. Et ces jeunes poètes donc, m'avaient demandé simplement de leur faire un recueil de poésie. Mmh. Et l'idée m'est venue que si effectivement ils souhaitaient qu'on passe leur message, eh bien on pouvait peut-être faire d'une autre manière. Donc j'ai interpellé des artistes autour de moi pour que les artistes lisent ces poèmes et éventuellement s'approprient un de ces poèmes pour en faire une œuvre. Et parallèlement à ça, j'ai rencontré donc Monsieur Omar Chaban, et l'idée était de travailler aussi avec ces jeunes autour de l'art, parce que l'art, à mon avis, l'art pour éduquer, hein, éduquer par l'art, si vous voulez, ça me semble très important pour des jeunes, que ça soit des enfants d'école maternelle, d'école élémentaire, des collégiens, mais aussi des lycéens. Parce que pour moi, l'art donne du sens aux apprentissages. Et au travers de l'art, on passe des messages et on éduque.
Alors, ces poètes et ces poèmes, hein, est-ce qu'on peut les entendre quelque part pour l'instant ?
Alors, on ne peut pas les entendre, mais je pourrais passer donc la parole à mon voisin, à Lévis, donc, qui est auteur, metteur en scène. Parce qu'actuellement, ces poèmes peuvent être lus. Et au travers de cette édition du Festival des Solidarités Internationales, nous avons voulu mettre en exergue tous les arts, toutes les formes d'art pour ces poèmes. Donc effectivement, on a des œuvres, des sculptures, des peintures, mais on a aussi on peut les entendre ces poèmes puisqu'il y a eu des mises en scène musicales, d'autant que d'ailleurs Omar Chaban fait partie d'un groupe qui a pu dire et chanter quelques poèmes, et également des acteurs, des comédiens qui ont créé un spectacle où justement ces poèmes, on les dit et on les entend.
Voilà, donc voilà. On va laisser la parole Absolument. À notre metteur en scène. Monsieur Chaban, une petite remarque.
Je voulais vous dire qu'en fait, les poèmes sont visibles à la Maison Folie d'Oisem.
Ah oui.
Sous forme de tableau, sous forme de texte et sous forme de sculpture.
D'accord.
Jusque samedi 20 novembre.
Et ensuite relayé à partir de dimanche, du 21 au 28 novembre à Orchy, dans la salle du foyer Croisat, et ensuite à Boulogne-sur-Mer, du 30 au 4 décembre.
Voilà, donc voilà. Un long voyage qui a commencé là pour ces œuvres, recueils hein, voilà. de textes.
Et qui ne se terminera pas, puisqu'on a vraiment envie que ces œuvres continuent de voyager de manière à sensibiliser et à passer les messages un peu partout.
Voilà, on va donner la place aux artistes.
Bonjour.
Bonjour. Donc, vous pouvez rappeler votre prénom et votre nom ?
Je suis Lévi Togo, auteur, metteur en scène, entrepreneur culturel du Mali.
Oui. Et donc, ce projet, comment vous l'avez rejoint ?
J'ai rejoint le projet à travers Martine, avec l'association et avec Pour le Mali. Mm-hmm. Et comme Martine parlait tout à l'heure de citoyenneté et de la question comment intégrer cette phase au niveau maternel, moi j'ai eu à travailler avec Martine avant le projet Art Lueur d'Espoir sur une école à Bamako avec deux artistes en art plastique et aussi en danse avec les plus jeunes. Et c'est à partir du moment où on a commencé à discuter sur le projet Art Lueur d'Espoir comment intervenir en milieu scolaire avec l'art et la culture pour sensibiliser, mais aussi pour partager, parce que le festival porte comme thème le droit à l'éducation.
Alors, comme vous avez cette expérience au Mali, hein, est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu le commentaire sur comment ça fonctionne, comment vous avez pu réaliser un projet là-bas et dans quelles conditions ?
Au Mali, on a réalisé le projet dans une école qui est dirigée par une femme battante. Et dans cette école, on a essayé d'identifier des jeunes, des enfants plutôt, qui sont motivés pour l'art et la culture. Et ensuite, à partir du moment où on a su que tel nombre d'élèves est motivé, on a fait appel à des jeunes artistes, artistes plasticiens et danseurs, pour intervenir au niveau de cette école. Mmh. Voilà.
Et comment on transpose, alors à l'île FIV en l'occurrence, hein, ce genre d'expérience ?
L'expérience qui s'est transportée ici à l'île FIV, c'est à partir du moment où ce travail de collaboration se fait entre le Mali et l'île, et ensuite comment l'intervention des 12 poèmes interviennent du côté de l'île, parce que toujours c'est le Mali et la France qui échangent au niveau de la culture. Et comment aussi l'art et la culture, en termes de diversité, comme le soulignait Michel Chaban, peuvent aussi intervenir du côté de l'île. Voilà où le texte, par exemple, que je suis en train de travailler ici avec les élèves du lycée Aimé Césaire, qui est « Au nom du thé, du sucre et du grain », un texte de Youssouf Koné, avec les élèves du Aimé Césaire.
Donc, comment ils s'emparent de ce texte ?
Ben, d'abord, il y a une prise de contact qui a eu déjà avec le texte à travers M. Chaban, bien avant que je sois ici à Lille. Donc, il y a eu plusieurs lectures pour que les élèves puissent comprendre le texte et comme il le parlait, comme il disait tout à l'heure, comment les jeunes ont un lien avec la politique, cette question électorale. Donc, et après cette lecture que moi, je suis intervenu maintenant au niveau des ateliers théâtrales, en exprimant le texte de façon vocale, mais aussi un peu gestuelle.
Donc, au niveau local, bon, on imagine que la situation politique ou démocratique, au moins, est moins délicate qu'au Mali. Comment ça se passe, vous, votre expérience dans le Mali ? Est-ce que vous avez senti des pressions, des tensions, des impossibilités ?
Ben oui, il y a beaucoup de choses qui se passent au Mali. Depuis 2012, comme le monde entier le sait, le Mali passe un moment très très difficile voilà, de son époque. Et aujourd'hui, la place de la jeunesse est assez importante pour dire comment nous allons sortir le Mali de cette situation. Nous, en tant qu'artistes, on a posé un acte qui est quoi ? À travers la création artistique, on a fait tourner cette pièce qui est « Au nom du thé, du sucre et du grain » à travers la ville de Bamako et les villes environnantes pour aussi sensibiliser les populations. Notre Mali est dans telle situation. Comment nous devons faire ? Comment nous devons prendre possession aussi de la parole, mais surtout de nos actes en moment de période électorale ?
Alors, c'est vrai que le Mali, c'est un pays qui est souverain, on va dire ça. Hein. La France est quand même très interventionniste là-bas. Les résultats ne sont pas terribles quand même. Hein. En termes actuels, on peut pas dire que ce soit un grand succès français, la manière dont on a apporté assistance, si on peut parler d'assistance. Donc, d'un point de vue de la population, il y a beaucoup de jeunes au Mali. Peut-être une population jeune plus importante qu'en France.
Oui, bien sûr. Il y a une grande partie de la population qui est jeune. Voilà, nous sommes une population jeune qui est beaucoup plus qu'en France, je dirais.
Donc justement, cette population jeune, est-ce qu'elle a l'énergie de la jeunesse et peut-être qu'elle a en elle les clés d'un avenir plus radieux que celui qu'on connaît actuellement ?
Je pense oui, parce que de 2012 à maintenant, vous allez remarquer que les jeunes ont vraiment réussi à démontrer leur force et leur engagement, mais surtout leur amour pour ce pays. Parce que, comme Martine le soulignait tout à l'heure, des jeunes sont confrontés à des conflits, mais parfois les jeunes permettent à informer les populations, à secourir d'autres personnes, et cela prouve que la jeunesse est engagée à vraiment secourir le pays, mais aussi démontrer son amour pour le pays.
Alors, Monsieur Chaban, le Mali, il y a aussi des enseignants, il y a des écoles. Est-ce que dans les programmes ou dans la façon de présenter les choses, il y a une part aussi pour la citoyenneté et pourquoi pas l'engagement politique ?
Aujourd'hui, en fait, les programmes, surtout en lycée professionnel, ont changé.
Je parle au Mali.
Ah, au Mali. Alors, je ne connais pas très bien les programmes du Mali. J'ai déjà beaucoup à faire avec les programmes en France. Ouais. Mais je sais, par exemple, qu'aujourd'hui, en géographie, l'Afrique est une part importante du programme. Parce qu'en fait, la France se rend compte qu'on ne peut plus avoir des relations franco-africaines comme du temps du général de Gaulle, c'est-à-dire la célèbre France-Afrique. Et que la France est en train d'être un peu poussée dehors, notamment par les Chinois, qui investissent beaucoup.
On pourrait aussi apprendre la Chine alors, aux élèves.
Alors, on apprend la Chine, on apprend la mondialisation, mais surtout, on apprend l'Afrique. Et on apprend que l'Afrique, en fait, bouge aujourd'hui. Qu'il faut sortir de cette vision misérabiliste et que l'Afrique a beaucoup de choses à nous apprendre. Et moi, j'ai voulu saisir cette optique. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'Afrique? Eh bien, par exemple, c'est pas un hasard si on a décidé de travailler la pièce de théâtre au nom du sucre, du thé et du grain, qui parle de politique au Mali, parce que par ricochet, en fait, ça parle aussi de politique en France. Et on voit, bon, les élèves, ils sont en terminale, ils sont majeurs, la plupart d'entre eux auront peut-être accès au vote.
L'année prochaine.
Voilà. Et en France aussi, on voit monter les populismes et les gens qui promettent tout et n'importe quoi, comme c'est le cas dans la pièce. Et donc, de façon indirecte, j'ai voulu aussi les sensibiliser sans avoir l'air d'y toucher à la chose politique, en leur disant que la politique, c'est quelque chose de sérieux et de grave et qu'il ne faut pas la prendre à la légère.
Voilà. Donc, on peut dire quand même qu'il y a une partie de la population qui se désengage de la politique parce que peut-être qu'elle constate ou qu'elle considère qu'elle ne se sent pas réellement représentée et que les modes de sélection, on peut dire, des candidats est quand même un mode un peu complexe et qui ne représente pas, ne reflète pas forcément les désirs de chacun d'entre eux.
C'est vrai. Mais en même temps, moi, ce que j'ai l'habitude de dire aux élèves, c'est qu'ils n'ont pas le choix. S'ils ne s'occupent pas de politique, la politique, elle va s'occuper d'eux. Et donc, ils doivent absolument au moins s'y intéresser, au mieux s'engager, quoi. Mais s'ils ne s'engagent pas, ils donnent les clés de la maison à des gens qui vont peut-être défendre leurs intérêts et pas les leurs.
Alors, s'engager, ça peut être aussi au niveau local, hein, de faire partie, je ne sais pas si ça existe à Lille, hein, mais d'un conseil municipal d'enfants, des choses comme ça. Ça existe à Lille?
Alors, ça existe. Hein.
Oui.
Ça existe. Alors, le seul problème, je pense que les conseils municipaux d'enfants fonctionnent en primaire. Et quand on arrive en lycée, surtout en lycée professionnel, il y a une espèce de désengagement, en fait. Il y a un ras-le-bol de la politique. Et puis, le lycée professionnel, souvent, c'est synonyme de filière d'échec. Donc, ils se sentent mis à l'écart, vous voyez.
Ce qui est un peu... Enfin, je vais dire... peut-être qu'il faudrait reprendre les choses, justement, sur l'idée de la valorisation des lycées professionnels, puisque, en fait, ce sont des métiers utiles, où les gens peuvent avoir vraiment dans la vie... Des fonctions, des rôles importants. Peut-être que le mauvais traitement des gilets jaunes aussi, ça témoigne qu'on n'a pas encore beaucoup de considération pour les métiers, entre guillemets, manuels, mais indispensables, et que dans les métiers professionnels, il y a des filières d'excellence. On pourrait peut-être en parler.
C'est vrai, mais vous savez, comme moi, que dans les lycées professionnels, les élèves viennent des classes populaires. Donc,
Ça n'empêche pas de faire des brillantes études, parfois.
Oui, mais... Quand on vient des classes populaires, ben voilà, on a moins de relais dans les sphères de l'administration.
Alors, oui, mais en même temps, quand on parlait d'engagement des jeunes et de l'énergie de la jeunesse au Mali, peut-être qu'on pourrait aussi... Alors, il y a moins de jeunes en proportion en France, mais on peut considérer, comme c'est l'avenir, il y a l'énergie qui existe déjà et que sans les moyens de la mettre en œuvre, en valeur... on est mal barré, quoi.
Après, comme Martine disait, je pense que l'art, c'est aussi un média intéressant.
Oui,
voilà. C'est un moyen intéressant.
Il me semble très intéressant. J'ai pu assister aux premières séances qu'a mené Lévis avec les élèves. Et en fait, je me suis rendu compte que, au travers du parcours qu'a expliqué Lévy sur son propre parcours vers l'art. Il a transmis un message qui a marqué les jeunes et montré que effectivement avoir un métier c'est une chose, mais que quelque part il y a aussi au fond de chacun d'entre eux, peut-être que chacun a une mission à accomplir, et que si ce jeune par l'art et par exemple à ce travail autour du théâtre arrive à s'exprimer mieux, à être plus à l'aise dans son corps, parce qu'on se rend compte que les jeunes sont aussi, ont quelque part, ils ont des clichés et ils sont très malhabiles, ils repoussent, ils rejettent le théâtre. Mais à quoi ça va me servir, le théâtre, à quoi ça me sert? Moi, ce dont j'ai besoin, c'est un métier. Mais Lévis leur a montré que par cette approche gestuelle, d'expression, etc., ça pouvait les servir. Et je crois qu'il y a eu vraiment moi, j'ai senti une adhésion des jeunes, et en se disant, mais oui, peut-être, effectivement, ça peut être intéressant.
En fait, au départ, il y a peut-être des préjugés de dire que l'art, ça consiste, ça, on va dire, ça, c'est plutôt associé à une certaine partie de la population, on va dire élitiste d'une certaine manière, et que s'approprier l'art, c'est un vrai combat, déjà. Et ce n'est pas aussi simple que ça non plus.
Absolument.
Donc, les passeurs, en l'occurrence notre artiste qui est ici, ont un rôle évidemment considérable à jouer dans le destin de ces jeunes.
Absolument.
Qui peuvent exister au travers de l'art, mais aussi, par la suite, dans d'autres circonstances.
Il y a pas... Absolument.
C'est une porte d'entrée.
Hein. Absolument. Mmh. Et franchement, j'ai vu... un peu des lumières dans les yeux de ces jeunes qui au départ étaient vraiment un peu réfractaires, quoi, je me dis, et franchement, vous parliez également tout à l'heure, monsieur, de l'éducation à la citoyenneté au Mali, et donc là aussi effectivement je pense toute l'importance de l'entrée de l'art dans les écoles, parce que au Mali il n'y a pas vraiment une place. Il y a une place pour l'éducation morale et civique au Mali. Dans chaque classe, il y a ces leçons de morale. Mais dans l'approche de l'éducation à la citoyenneté au niveau des lycées, etc., on n'en parle pas vraiment. Et là encore, par ce travail de solidarité et de coopération avec la France, eh bien, on a changé des petites choses en lien avec les structures de l'éducation nationale au Mali, parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, l'art peut donner du sens aux apprentissages et être un plus.
Après, quand on dit art, c'est un mot un peu fourre-tout. Hein. J'imagine qu'au Mali, il y a de l'art aussi, hein, et notamment de l'art que parfois on a même volé, pillé. Donc il y a de l'art partout. Hein. Comment on le met en valeur? Qu'est-ce qu'on préserve? Qu'est-ce qu'on présente et qu'est-ce qu'on représente? Et est-ce que les artistes de ces pays-là ne sont pas un petit peu les ambassadeurs aussi de leur art, et comment ça transparaît peut-être au travers de leur travail ici en France?
Alors, moi, justement, peut-être je vais laisser la place à Lévis, mais vous dire que dans ce projet, il y a des artistes plasticiens qui ont fait venir leurs œuvres aussi. Oui. Et dans cette exposition, il y a 4 tableaux d'un plasticien malien qui travaille également. Et c'est vraiment un travail de co-création. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Mmh. Je vais laisser la place à Lévis.
Bon, en fait, tout à l'heure, on parlait d'énergie des jeunes au Mali et comment cette jeunesse s'engage aussi pour son pays. Mmh. Et on voit que les mouvements qui ont eu à déstabiliser la politique au Mali, des jeunes qui ont marché dans les rues pour dénoncer vraiment et démontrer leur colère et tout. Mm-hmm. Mais à travers les œuvres de l'art que nous voyons, par exemple ces textes au nom du sucre du grain, ou encore un travail d'artiste plasticien, l'artiste s'engage aussi, dénonce, démontre, mais artistiquement pour dire que voilà ce que la société vit, voilà les promesses que la politique nous fait, voilà les promesses que la politique ne tient pas. Mais dans cette version théâtrale qui est différente de cette manifestation dans les rues, mais qui a une certaine force aussi pour dire que l'énergie qui est à la jeunesse aussi, l'art aussi nous permet de démontrer tout cela. Mmh. Et c'est là, en conscientisant aussi les plus jeunes, pour dire que vous avez une force, vous avez une voie à prendre. Donc, les arts nous permettent de dessiner ces différentes voies-là. Donc, je pense que l'art a une très grande place dans ce sens-là.
Alors, effectivement, on peut concevoir les œuvres comme des œuvres en action et aussi en protestation d'une certaine manière. Est-ce que pour autant, le fond culturel de n'importe quel pays est aussi important à préserver et à faire connaître? J'imagine qu'il y a des œuvres intéressantes au Mali et que je ne sais pas s'il y a un musée qui rassemble ça en France qui pourrait témoigner un petit peu de la richesse de la culture du Mali ou d'autres pays. Qu'est-ce qu'il y a?
Le Mali a un musée qui est très bien pour accueillir les œuvres, que ce soit les œuvres qui doivent être restituées ou encore des œuvres qui sont au Mali, pour montrer aussi sa culture à la jeunesse, parce que c'est la culture qui est la base de toute société. Et c'est la culture qui nous enseigne d'où nous venons et vers où nous allons vers où il faut partir.
Donc cette culture, j'allais dire locale, elle est un ciment social aussi.
Bien sûr, parce que je peux prendre l'exemple, par exemple, de cette pratique du sinankunya, des petites blagues entre cousins, cousines ou frères ou encore oncles et petits enfants. Donc tout ça, c'est des tissus quand même sociaux qui permettent de garder cette société. Et je pense que même jusqu'à aujourd'hui, si cette crise n'a pas réussi vraiment à déstabiliser complètement le Mali, quelque part, la culture a eu sa place et que nos différentes pratiques culturelles que nous avons au sein de la société ont eu à jouer leur rôle.
Alors, ces pratiques sociales qui existent peut-être encore plus au Mali qu'ici, où on est beaucoup sur des réseaux sociaux et à consulter des tablettes un peu stupidement, est-ce qu'il y a encore ces pratiques-là qui éveillent aussi à la connaissance, à la transmission et puis à la compréhension du monde?
Voilà, justement, votre question, elle me faisait penser à un artiste qu'on a fait venir au lycée. Qui s'appelle Philippe Holvoet, et qui a
bien.
Fait, vous connaissez, et qui avait fait une fresque qui s'appelle Les enfants d'Aimé Césaire. Et il se trouve qu'en fait, Philippe Holvoet a grandi en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et il nous expliquait qu'en fait, en Afrique, la peinture surtout a une fonction didactique. C'est-à-dire que les fresques ne sont pas seulement décoratives, mais il y a des messages. Alors, ça peut être des messages sanitaires, des messages politiques, des messages... et peut-être... Enfin, il nous expliquait aussi que l'art a une fonction sociale beaucoup plus importante qu'en Europe, où l'art est souvent associé au business, en fait.
Ou
l'art est commercial.
Ou à la contestation.
Ou à la contestation, voilà.
Mais c'est vrai que si on prend un exemple, on parlait un peu de la Chine tout à l'heure, en Chine aussi, il y a dans les rues des tableaux, enfin des choses qui sont peintes et qui rappellent, un certain ordre social, une base de vie en commun, on peut dire ça comme ça.
Alors, peut-être qu'on a perdu ça ici parce que, bon, c'est tout simplement lié peut-être aussi au progrès de l'alphabétisation. Mais pendant longtemps, l'art a été, été le livre de ceux qui ne savaient pas lire.
Quoi. Ouais, c'est un média comme un autre.
C'était un média, voilà. Et donc, Philippe Holvoet nous a souvent expliqué qu'en Afrique, en fait, on se servait des images et des fresques pour, non pas éduquer, mais pour transmettre des messages.
Vous lui transmettrez mes amitiés, parce que vraiment, c'est quelqu'un qui m'a vraiment touché, Philippe Holvoet, quelqu'un qui a une galerie, Holvoet à Lille.
Écoutez, il a fait une très belle fresque au lycée. Qui est amené à mon avis à devenir un patrimoine lillois. Et je vous invite à venir la voir, elle est magnifique.
Est-ce qu'elle fait partie du 1% culturel?
Alors là,
à la construction de tout établissement scolaire, notamment, il y a le 1% du budget qui est consacré à l'achat d'une œuvre d'un artiste.
À mon avis, oui.
C'était au départ de l'installation du lycée, l'œuvre, c'est venu après?
Ah non, c'est venu après. C'est venu après.
Mais ça, je pense que c'est plutôt l'œuvre d'art, les œuvres d'art éventuellement, c'est à la construction.
À la construction.
C'est après. C'est un projet, dans le cadre d'un projet
En fait, on avait une ancienne fresque qui était polémique parce qu'elle représentait, elle était très masculine, très. Et puis, quand il y a eu un changement de direction, la direction voulait changer cette fresque pour en faire, pour le faire à l'image du lycée, c'est-à-dire avec de la diversité, mais pas seulement ethnique, la diversité aussi au niveau des genres. Et puis, que toute la population du lycée soit représentée.
Donc ça, effectivement, la question du ou des genres se pose vraiment maintenant. Enfin, on n'en a jamais autant parlé. Est-ce qu'en Afrique, notamment au Mali, c'est quelque chose qui commence aussi à évoluer, ou est-ce qu'on est toujours dans la tradition des pratiques et du rôle de chacun dans les familles ou dans la société?
Aujourd'hui au Mali, cette question de diversité, elle est beaucoup discutée, parce que vous allez voir, même quand il y a un gouvernement qui est constitué, vous allez voir que cette question de diversité, elle est discutée, et une grande place est laissée aussi à cette égalité-là. Et au niveau aussi même des arts, vous allez voir qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes artistes qui prennent vraiment le dessus, une grande partie est constituée des femmes, et ensuite, c'est vrai, il y a des hommes, mais ça veut dire que la femme aussi a une force. Mm-hmm. Et ça veut dire que, mais au-delà de tout cela, en fait, le Mali, il y a de cela très longtemps, dans le 12e siècle quand nous partons, la femme a une grande place au sein de nos sociétés. Et donc ça, et c'est quelque chose qui est culturel, et qui ne date pas d'aujourd'hui, en fait, cette question d'égalité ou encore cette question de genre. Donc, je pense que c'est quelque chose qui existait bien avant qu'aujourd'hui on en parle, aujourd'hui ici, par exemple, en Europe.
Mais voilà. En Europe, comme aux États-Unis, ça vient plutôt des États-Unis, on conteste un petit peu les rôles de chacun dans la société, notamment dans les familles aussi. Hein. Et même, pourquoi pas, pourquoi des familles, les questions se posent aussi parfois. Hein. Même de l'enfant, est-ce qu'il faut des enfants ou pas? Enfin, il y a des associations un peu bizarres là-dessus, enfin, qui ont leur logique. Hein. Donc,
et je souhaite aussi vous donner, par exemple, au Mali, il y a une pratique qui existe en famille. Que tu sois garçon ou fille, tu ne peux pas sortir le matin de la maison sans dire bonjour à la maman, même si tu vas au boulot ou tu vas à l'école. Tu as cette obligation, ce respect de venir saluer d'abord la maman avant de sortir. Tu peux sortir même si tu n'as pas vu le papa, mais ne peux pas sortir sans voir la maman. D'accord. Donc ça veut dire que ce signe-là existait bien avant. Voilà.
Donc effectivement, on sent bien toute la place des femmes dans les sociétés. Ce matin, sur Radio Campus, il y avait une émission sur les femmes dans le rap. Je ne sais pas si le rap, ça existe au Mali.
Oui, au Mali, il y a des rappeurs, il y a des rappeuses aussi. Oui.
Donc ça, on va dire, ça gagne aussi l'Afrique.
Ça gagne le terrain.
Est-ce que globalement c'est plutôt positif que ça gagne, ou bien est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que ça apporte une pollution éventuellement?
En fait, le mouvement rap a toujours aussi cette connotation de pollution.
Je dis pas ça.
Je le dis. En fait, le mouvement rap aujourd'hui au Mali a cette connotation de pollution parce que il y a beaucoup de gens qui critiquent le mouvement rap, mais quand vous voyez ce que les jeunes sont arrivés à faire avec le rap aujourd'hui au Mali. Le rap fait le plein du stade, alors qu'un mouvement politique fait rarement le plein du stade. Ça veut dire que quelque part, il y a une grande importance portée vers le rap. Et aussi, quand vous prenez les jeunes qui arrivent à gagner leur vie grâce à ce qu'ils font dans le rap, que ce soit les gens qui font la couverture des festivals de rap ou encore des concerts de rap, ça veut dire que ces gens parviennent à vivre grâce au rap.
Alors, c'est vrai qu'on comprend aussi toute la réflexion autour de, est-ce qu'on maintient une culture traditionnelle ou est-ce qu'on ouvre les vannes alors, pour le coup, il y a quand même de commerce dans ce que vous venez de dire, de reconnaissance par aussi l'activité économique de la musique. C'est encore autre chose. Mais pour ce qui est du rap et des paroles, de l'expression que ça donne, peut-être que comme en France, on peut imaginer le rap ou le slam, hein, que ce soit aussi des vecteurs d'idées. Et peut-être M. Chavan pourrait revenir là-dessus.
Moi, je pense tout d'abord que vouloir préserver un pays ou la culture du rap, c'est un combat d'arrière-garde. parce que je ne sais plus qui est-ce qui disait qu'en fait le rap, c'est une musique urbaine. Où il y a des villes, il y aura du rap. Mmh. Parce que il y a des jeunes qui sont là, qui sont... Voilà. Deuxièmement, moi je pense que le rap a des racines africaines. Il ne faut pas oublier aussi que les Afro-Américains, c'est aussi une diaspora africaine.
Bien sûr.
D'accord ? Et que, en fait, que le rap arrive au Mali, ben, je crois que c'est un aller-retour.
Retour aux sources.
Un retour aux sources.
Retour aux sources, c'est ça.
Voilà. Ouais. Et ce sont des fertilisations, on va dire, croisées.
Bien sûr, des regards croisés, oui. Oui.
C'est un peu comme si, on déplorait qu'il y ait du jazz au Mali. Il n'y a personne qui dirait le jazz au Mali, quelle horreur. On dirait au contraire. Ou alors le blues au Mali. Mmh. Aujourd'hui, je pense que le rap, pour les jeunes générations, c'est leur blues.
Voilà, donc on sent les racines et après, il y a la transformation pour revenir, j'allais dire, à la source. Et entre deux, il y a toute une chaîne humaine d'artistes.
Ben oui, il y a une chaîne humaine d'artistes, mais comme disait M. Chaban tout à l'heure, c'est la source vient de là. Et quand vous prenez l'exemple du blues, on peut citer Ali Farka Touré. Oui. Le jazz, on peut citer Cheikh Tidiane Cheikh. Mais ces artistes-là ont pris le goût de cette musique d'abord dans leur société et ensuite qu'ils l'ont transporté ailleurs, qui a connu peut-être une transformation, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà, mais ça vient de là.
Alors c'est vrai que notre grande Johnny National disait que elle vient de là, elle vient du blues. Alors c'est vrai que le blues a aussi les racines du blues aux États-Unis. Hein, c'est aussi lié à une époque plus que coloniale, une époque d'esclavage.
Hein.
Donc il ne faut pas oublier non plus ce pan de l'histoire.
Absolument.
Comment on peut sortir un peu de cette difficulté-là aussi, et de franchise dans les propos entre pays, quand on a cette histoire qui pèse quand même. On le ressent vraiment aujourd'hui.
Personnellement, moi, je pense, là encore une fois, c'est un retour. Les arts, en règle, donc, tout domaine artistique confondu, peut-être peuvent permettre justement cette prise de parole. Si vous avez des débats d'emblée sur l'esclavage, la colonisation, ça prend tout de suite des tournures un peu... ça peut être même par la parole assez violent. Et l'art, au travers de l'art, on a une approche qui va peut-être être plus... c'est un moyen. À mon avis, on peut utiliser l'art comme un outil, un moyen pour permettre d'avancer ensemble. Et je crois vraiment à des projets de co-création. Et sur une thématique, et par exemple la thématique de l'esclavage ou de la colonisation, au travers de l'art, peut-être plus facilement abordée que si on met en place une conférence où on va parler de la colonisation ou de l'esclavage. Et je pense que les jeunes sont certainement plus à même d'aborder ces thèmes qui sont quand même très sensibles. Mmh. Et je pense aussi que les jeunes n'ont peut-être pas la même... Enfin, nous, on va parler... moi, je suis née en 1950. Mais au fil des années, les jeunes n'ont peut-être plus... le même souvenir, la même vivacité. Enfin, quand on parle de ces notions-là, enfin de thèmes de colonisation et d'esclavage, donc je pense que on doit de toute façon en parler. Hein, je pense qu'effectivement, mais ça doit être pour avancer. Et je crois qu'au travers de l'art, on peut peut-être avancer dans ce domaine-là.
Ben, de toute façon, je pense que effectivement, la musique, comme je l'avais dit dans un cours de géographie. C'est un soft power et ça permet de poser des questions qui sont conflictuelles. C'est-à-dire, la question, à mon avis, la question des migrations, des migrants, d'accord, et du droit de circulation, je crois qu'elle n'a jamais été mieux posée que par Manu Chao avec Clandestino.
Mmh. Voilà, il y a des musiques qui font le tour du monde et qui fédèrent, hein, on peut dire ça. Donc il y a des artistes, au départ on les voit arriver par la petite porte et d'un seul coup, ils s'engouffrent dans le monde entier. C'est assez remarquable.
Alors je ne sais pas si au Rassemblement National on a dansé sur Manu Chao Clandestino. C'est peut-être pas impossible.
Donc de toute façon, on sent qu'il y a heureusement, de l'énergie et aussi des volontés pour une grande partie du monde de remettre un peu de bon sens et de, j'allais dire, bienveillance dans les rapports entre les gens. Et puis, il y a une partie aussi de profiteurs, on va dire, hein, qui polluent un petit peu l'atmosphère et essaient de s'accaparer soit les richesses, soit les pouvoirs. C'est un peu ça.
Absolument.
Donc la citoyenneté, ben voilà, c'est tous ces débats-là qui semblent intéressants et peut-être décrire, mettre en mots aussi toutes ces idées qui ne sont pas toujours au départ bien claires et qui ne sont pas toujours avec les mots qu'il faut. Le rôle peut-être de l'enseignant aussi, c'est d'amener du vocabulaire, de la richesse, du style pour amener les idées à être exprimées au mieux grâce au vocabulaire dont on dispose.
Bien sûr. Mettre en place des ateliers d'écriture. Et je pense que là, même au niveau du théâtre, la restitution que fera Lévis, je pense que ça peut être intéressant aussi de voir justement comment ils vont s'approprier une certaine forme d'écriture et peut-être, au-delà de ça, peut-être écrire à leur tour.
Ah oui, susciter des vocations, bien oui.
Voilà, ben, merci pour votre intervention et puis pour ce projet. Est-ce qu'on aura une visibilité de ce projet? Est-ce que ce sera ouvert au public? Pourquoi pas?
Absolument, oui. Là, donc, ce que nous, actuellement, dans le cadre du Festival des Solidarités, nous avons donc cette exposition à Lille, où effectivement on voit cette approche par l'art des textes de ces poètes maliens. Mais. On compte en faire vraiment une valise pédagogique qu'on va adapter à tout niveau d'élèves pour justement faire en sorte que eh bien les apprentissages fondamentaux puissent être abordés au moyen de ce qu'on a pu mettre en place au niveau du Festival des Solidarités.
Bien, merci beaucoup pour votre intervention et bonne continuation.
Merci.
Et puis voilà, on sent l'énergie, la volonté et il y aura forcément un chemin.
Merci beaucoup pour votre invitation.
Merci beaucoup.